Bonjour Rodolphe Landemaine.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sierra Europe 1 et d'être avec nous sur ce forum pour une trentaine de minutes pour qu'on revienne ensemble sur votre parcours.
Ouais.
Très chouette cette vidéo introductive où on comprend bien la philosophie de Land & Monkeys, donc qui est la marque que vous avez créée en 2020 pour une boulangerie végétale. Vous avez toutefois avant cela ouvert des boulangeries qui s'appelaient Landemaine,
hein,
qui portent votre nom de famille. Vous êtes issu d'une famille de boulangers?
Non, pas du tout.
Alors, quelques mots sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier?
Moi, j'ai eu une formation chez Compagnons du Devoir. À la base, j'ai fait un bac scientifique. Je voulais faire plutôt de la bio, de l'éthologie, des choses comme ça.
Voilà.
Des choses comme ça. Et puis, en fait, à un moment, je voulais embrasser une carrière d'entrepreneur. Et j'ai choisi un métier qui pouvait me faire traverser un petit peu toute ma carrière, un métier traditionnel, celui de boulanger, qui me permettait d'avec ce métier de traverser toute ma carrière. Donc j'ai été formé chez les Compagnons du Devoir. Le principe, c'est de se former un an par ville, donc de voyager entre 4 et 7 ans et d'apprendre son métier. Avec le projet très très simple d'ouvrir un commerce, en l'occurrence une boulangerie, et développer une enseigne autour de la boulangerie-pâtisserie.
Oui, parce que dans votre philosophie, il y a l'entrepreneuriat.
Oui, exactement.
Une boutique n'était pas l'objectif, c'était vraiment plusieurs.
Ouais, exactement.
Vous avez assez vite maillé Paris avec des boulangeries Landemaine qui sont très vite devenues une référence.
Ça.
Je ne sais pas si vous avez joué sur une communication efficace ou tout simplement sur une qualité de produit.
Oui, non, vraiment focus produit, pas trop de marketing justement. On n'a jamais été très bon là-dessus. Il n'y avait pas grand-chose à marketer. La singularité de Maison Landemaine, c'était d'aller déjà dans des quartiers autrefois, il y a une 10-15 d'années, qui étaient un petit peu dits populaires, plutôt la rive droite. Et sous une enseigne, sous une bannière, en l'occurrence Maison Landemaine, de proposer une série de produits. Vous savez, le métier de boulanger, c'est le pain, la pâtisserie, la viennoiserie et la petite restauration, qui représente d'ailleurs maintenant un chiffre assez conséquent aujourd'hui, de développer cette enseigne et de se focaliser sur la qualité des produits et une qualité d'emplacement qui est propre à notre ADN. Et voilà, de développer ce réseau de boulangeries qui compte aujourd'hui une trentaine d'établissements répartis entre Paris et Tokyo. Tokyo, parce que ma femme est japonaise, et que j'ai eu l'occasion de pouvoir monter des enseignes, enfin des emplacements là-bas.
Parce qu'à Tokyo, donc, il s'agit de Landemaine et non pas de Land & Monkeys.
Exactement, c'est la première marque.
Alors pourquoi Land & Monkeys?
Et pourquoi pas?
Oui.
ouais, il y avait pas mal de petits clins d'œil à pas mal d'univers. Alors déjà, je voulais que ça soit un anglicisme. Si ça fonctionnait, ce pari un petit peu audacieux de se dire qu'on allait végétaliser ce vieux métier qui est le métier de boulanger, c'est un anglicisme pour aller amener la marque à l'étranger. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, vu qu'on twistait quand même un vieux métier, un nom un peu fun pour montrer que quand même on ouvrait la porte vers quelque chose de nouveau. En l'occurrence, les noms et les enseignes qui reviennent toujours, c'est Maison Quelque-Ci ou Le Grenier, enfin, je sais pas, la cave à pain, le machin. Et puis, en même temps, il y avait pas mal de petits clins d'œil à l'intérieur de ça. C'est que c'est la première syllabe de mon nom, Land. Land, c'est aussi terre et singe. Je faisais un petit clin d'œil à nos origines de grands singes. Et te dire comment on réconcilie par l'assiette les grands singes, en l'occurrence Homo sapiens et la Terre.
En quelle année s'est ouverte la première boulangerie Landemaine?
Alors début 2007, c'est la première enseigne qui ouvre dans le 9e, rue de Clichy.
Et ensuite, il y en a eu combien? Il y a combien de boutiques Landemaine aujourd'hui à Paris et en France?
Il y a 24 entités parisiennes et il y a 5 entités japonaises.
Ok.
Voilà.
Et Land & Monkeys, pour l'instant, reste une marque parisienne?
Alors, c'est une marque très parisienne, on n'est que à l'intérieur du périphérique, donc on a 5 établissements parisiens et un 6e qui ouvre bientôt dans le 18e arrondissement. Mais on a déjà des DIP qui sont signés en province avec des ouvertures prévues pour 2024 dans 2-3 villes, 2 sûres qui sont signées et une 3e qui est en négociation.
Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir créer une boulangerie entièrement végétale?
Alors, moi j'ai grandi dans une famille végétarienne avec une sensibilité sur tout ce qui est éthique animale. Et il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, j'ai embrassé un régime vegan, dit vegan, c'est-à-dire sans produit d'origine animale dans sa vie, sans être un ayatollah, enfin se dire est-ce que dans ma vie au quotidien, je peux vivre sans produits animaux, tout du moins sans consommer des animaux, mais sans acheter des vêtements, sans utiliser les animaux de quel que ce soit. Et en fait, c'était difficile pour moi d'opérer un réseau dans lequel je consommais pas ou très très peu. Lors des moments de dégustation, ça m'arrivait de déguster ces produits-là. Et en fait, il y avait quelque chose qui était complètement paradoxal dans cette approche-là. Et donc, l'idée de se dire, mais finalement, il y avait deux choix qui s'offraient à moi. C'était de sortir en vendant le groupe et en partant sur autre chose. Parce que c'est difficile d'opérer un groupe qui n'est basé que sur l'utilisation de produits et de sous-produits d'origine animale. ou de twister, d'imaginer qu'on puisse prendre un vieux métier comme ça et pour une fois, en fait, de faire quelque chose de réellement, réellement nouveau et de ne pas être une enseigne nouvelle ou marketée, une énième marque marketée, mais plutôt d'avoir, de repartir de fondamentaux, donc de garder la technique et de voir si on pouvait végétaliser cette enseigne-là. Donc c'est comme ça que c'est venu. C'est d'abord un choix personnel qui m'a fait bifurquer sur mes choix professionnels.
Alors pour le pain, aucun problème.
Exactement.
Rien, pour le pain, rien à transformer. Ouais. En revanche, pour tout ce qui est viennoiserie, ouais. Pâtisserie, et même certainement snacking, ouais. les offres salées proposées à la mi-journée ou en après-midi, il a fallu réfléchir.
De façon assez contre-intuitive, on aurait l'impression que c'est toute la pâtisserie ou la viennoiserie qui est le plus dur à végétaliser en gardant le goût. Mais finalement, c'est de la chimie, c'est pas si compliqué que ça. Le plus dur, ça a été toute la petite restauration, le midi 14, c'est-à-dire comment on remplace les marqueurs forts d'une boulangerie dans la petite restauration qui sont toujours des produits d'origine animale, le jambon beurre, le mix, le thon, le poulet, toutes ces choses-là. Et là, il y avait un vrai travail de créativité et de recherche et développement. On ne pouvait pas proposer une dizaine de références qui soient uniquement tournées autour du légume. Et la première entité qu'on a reprise et qu'on a twistée, qu'on a transformée en Learned Monkey, c'était une boulangerie-pâtisserie existante. Donc, en fait, il y avait le pari aussi de garder cette clientèle-là, qui en plus représentait 40% du chiffre d'affaires de la petite restauration, j'entends, et de ne pas perdre, en fait, ce pourcentage de chiffre d'affaires. Donc, il fallait, voilà, sur la partie petite restauration, se creuser les méninges. Et à l'époque, quand on a travaillé sur ces sujets-là, il existait peu de simili-carnets, enfin, peu de solutions. Il y avait moins de startups qui s'étaient montées, moins d'options sur le marché. Alors que maintenant, en fait, les options s'élargissent et nous permettent de balayer un spectre plus large de créativité.
Qui a réfléchi à ces recettes ? C'est vous ? Vous aimez ce travail-là ?
Ouais. Alors, j'aime pas du tout.
Okay.
Quand les gens me demandaient pourquoi ça fonctionnait Maison Landemain, je dis, c'est simple, on fait des produits qui sont... on n'invente rien, pour le vraiment. On fait un bon croissant, on fait du pain au levain, on fait les choses dans les règles de l'art, ouais. Avec un soin porté aux emplacements qu'on va sélectionner, bien sûr, mais en vérité, on reproduisait des choses qu'on avait apprises, mais qu'on faisait très bien, qu'on essayait de faire le mieux possible. Mais par contre, pour Learned Monkey, vraiment, là, il y avait un travail de créativité pure et de recherche et développement. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour le coup, là, c'est un vrai travail de recherche et développement profond. On est en train de revisiter un Paris-Brest, un énième éclair au chocolat, etc., en faisant varier à la marge les ingrédients ou la forme ou ceci, cela. Mais vraiment, on repart d'une feuille blanche dans laquelle, dans notre économa, il n'y a aucun produit d'origine animale. Et nous, notre héritage socio-culturel de ce métier-là, il est basé sur l'utilisation des sous-produits d'origine animale. Donc, c'était un vrai défi. Mais il fallait l'embrasser comme une vraie recherche de créativité en partant du postulat que potentiellement, on n'y arriverait pas. Puisqu'on n'avait personne avec qui échanger. À l'époque, quand on travaille sur ces sujets-là, il y a une dizaine d'années, il n'y a personne avec qui on peut téléphoner, enfin, passer un coup de téléphone à quelqu'un pour dire « Je bloque techniquement là-dessus, comment tu peux m'aider ?» Et donc, on s'est débrouillé de notre côté, tout seul, de façon empirique, sans savoir, en réalité, si on allait craquer tous les sujets techniques.
Mais ça a marché.
Ouais, ça a bien marché.
Ça a été long, j'imagine.
Alors, tout est relatif. Il y a eu 2-3 ans de recherche et développement, mais il y avait déjà de la recherche et développement qui avait été faite initialement quand on a plugué ça à l'intérieur de Maison Landemain. C'est-à-dire, d'abord, on a testé des recettes végétariennes et véganes dans Maison Landemain. On est 2015, 16, 17. Et on voit que ça fonctionne, que finalement, il y a un marché qui est prêt à embrasser ce genre d'offre. Et puis après, de se dire, l'intégralité de l'offre va être végane. Alors là, par contre, oui, c'est plus complexe. On savait qu'on était attendu au tournant et qu'il fallait rendre copie blanche. On sait que la raison majeure qui font que les gens ne transitent pas, c'est la peur de se passer des choses qu'ils ont l'habitude de manger, de perdre de la gourmandise. Et donc, il fallait qu'on rende une copie ultra ambitieuse et qui permette de faire revenir les gens par le goût et pas par le côté marketing. D'ailleurs, ce n'est même pas brandé en fait, boulangerie végane. C'est juste marqué boulangerie-pâtisserie végétale à l'entrée. Donc, il y a beaucoup de clients qui viennent régulièrement, parfois des mois après, mettre du temps à découvrir qu'en fait, cette boulangerie-là est 100% végétale.
Ça a été compliqué de trouver au départ, j'entends, les produits de substitution parce ouais. que vous avez-vous déjà commencé par remplacer, je dirais, enfin tenter de refaire une tarte aux pommes, un éclair au chocolat.
Ouais.
C'est ça le travail de base.
Exact. Non. Enfin, le travail, ça a été d'abord de dire, je mets tout dans mon économa les produits que je peux utiliser. Ok. Et je dis, ok, j'ai tout ça pour faire des bonnes choses. Point final. Après, de rester en veille marché pour savoir ce qui naît dans le monde. Donc, comme je parlais tout à l'heure de toutes les startups qui innovent sur ces sujets-là, et de se dire, OK, je ne vais pas me focaliser sur les choses que je ne peux pas craquer. En l'occurrence, par exemple, la pâte à choux, c'est hyper complexe, mais plutôt d'aller sur les choses que je peux craquer et qui gustativement fonctionnent. Et de se dire que ce qui ne fonctionnait pas aujourd'hui à l'instant T, c'est pas très grave, ça ne nous empêchait pas d'ouvrir un commerce et qui fonctionne. Donc, c'est d'abord d'aller sur des choses simples qui fonctionnent, et avec le temps, avec les échanges, avec les projets annexes qui naissent, de pouvoir échanger, de craquer les micro-sujets ou les poches qui font encore de la résistance.
Parce qu'aujourd'hui, le beurre, j'imagine que vous le remplacez dans un cas par la margarine, dans l'autre cas par l'huile.
Oui, c'est ça, exactement. En fait, si on part du postulat que le beurre, c'est un corps gras, on se dit quel corps gras va pouvoir supplanter le beurre dans cette recette, premièrement. Donc on voit qu'il y a toutes les margarines, après aussi pas mal d'entreprises nouvelles qui proposent des corps gras un peu plus qualitatifs avec des points de fusion plus bas. On a la famille des huiles. Et donc on travaille et on se dit, tiens, est-ce que gustativement ça tient toutes ces promesses? C'est comme ça qu'on a travaillé. Et par exemple, je vous donne une petite anecdote sur la partie des œufs, parce que c'est la partie qui m'anime, où en fait c'est les œufs sont omniprésents dans toutes les recettes. Et au départ, il y a 7-8 ans, on s'acoquinait avec des Libanais pour récupérer l'aquafaba, puisque l'aquafaba permettait d'en fait, oui, de faire des blancs en neige, de pouvoir faire, voilà, ouais, c'est ça. Et donc en fait c'était la débrouillarde. et puis maintenant le marché s'est un peu solidifié, beaucoup d'initiatives diverses et variées dans plein de branches, donc tout ce qui est viande, tout ce qui est affinage de fromage ou le domaine des œufs, les végétaux, etc., qui nous permettent de plus en plus de converger vers un produit qui, d'un point de vue visuel et gustatif, n'a rien à envier aux produits existants.
C'est vrai que pour avoir franchi la porte de vos boutiques, on s'aperçoit quand même qu'à l'œil, on a du mal à croire, enfin, ou en tout cas à savoir, si on ne le sait pas, que la pâtisserie que l'on a en face de soi ou le cake est un cake vegan.
Ouais, c'est ça. Et en fait, notre marge de progression, elle est encore immense, parce qu'on fait qu'on est au balbutiement en fait, de cet univers végétal. Alors, ce qu'on a toujours comme remarque, c'est oui, mais vous êtes un peu l'ersatz de la gastronomie et en fait, vous ne faites que de copier, ça serait dommage que vous ne créez pas votre monde. Mais les gens sont complètement ambivalents parce que quand ils rentrent dans une boulangerie, ils veulent absolument trouver les référents qu'ils ont. C'est-à-dire un croissant, un sandwich, un petit gâteau, etc. Donc en fait, on a d'abord besoin de montrer aux consommateurs que finalement, c'est imaginable et ce n'est pas une utopie, premièrement. Et après, bien sûr qu'on peut partir dans plein de directions avec de la créativité puisqu'on n'a pas tout cet héritage technique et socio-culturel autour des recettes qui fonctionnait. Et donc, oui, après, on peut partir en arborescence et partir sur de la créativité, mais d'abord, de bien faire les fondamentaux, c'est hyper important pour assurer le consommateur.
Le plus difficile n'est-il pas, en fait, de proposer quelque chose que les gens vont chercher à comparer? Parce que j'imagine que peu de gens arrivent en se disant, tiens, je vais manger le gâteau que je vois.
Ouais, c'est ça.
Tout le monde se dit, est-ce que le cake marbré aura le même goût que celui que je connais déjà?
Exactement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu brander vegan en fait, dans nos boulangeries. C'est parce qu'en fait, si on n'était pas capable de tenir cette promesse d'un client, d'un consommateur qui revient parce que c'est bon, ça ne fonctionne pas en fait. Ok, on va s'adresser à ce micro-marché du végétarien ou du vegan qui représente 1 à 3%, peut-être 3-5% maintenant du marché, mais qui n'est pas assez profond pour pouvoir imaginer qu'on puisse être ambitieux et développer cette marque en national, par exemple. Donc, il fallait adresser un marché beaucoup plus large. Et le seul moyen de faire twister des gens qui ne consomment pas de cette façon-là, c'est que parce que c'est bon et que ça fonctionne d'un point de vue gustatif.
Quel est le profil de vos clients aujourd'hui? J'imagine qu'inévitablement, vous avez une partie de vegan, mais ouais, pas que.
Non, pas du tout. En fait, si on faisait un petit audit de notre clientèle, je pense qu'on serait probablement autour de plus de 80% de notre clientèle qui n'est pas végétarien ou vegan. Donc, OK, c'est un lieu de destination pour les gens qui étaient contents de pouvoir trouver ce type d'offre qu'il n'y avait pas encore sur le marché pour les gens qui étaient végétariens ou véganes, de trouver donc une offre autour de la boulangerie. Mais finalement, la clientèle d'une boulangerie, c'est une clientèle très localisée, de passage. C'est pas un lieu de destination. On vient, il y a 3 boulangeries dans notre quartier et on va à celle qu'on préfère, qui a un meilleur rapport qualité-prix. Donc, ce chaland-là, si on n'était pas capable de le séduire, ça ne fonctionnait pas. Il fallait absolument que ce chaland-là il puisse aussi venir chez nous.
Alors, l'avantage pour une certaine catégorie de population aussi, le vegan, c'est qu'il répond à quelques intolérances ou allergies comme le lactose.
Exactement.
Donc, il y a un avantage pour une partie de la clientèle qui trouve enfin de quoi sustenter son plaisir gourmand.
Alors ça, on l'avait sous-pondéré. En fait, cette partie des consommateurs qui sont allergiques aux œufs ou ou au laitage, etc. Alors les enfants, les jeunes enfants, c'est 8-9% qui sont allergiques aux œufs. Donc on a vu aussi venir pas mal de familles qui justement pouvaient offrir à leurs enfants des produits qui théoriquement ne pouvaient pas consommer. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait sous-pondéré, toute la famille des allergènes en fait, et qui peuvent venir, oui, dans ces lieux-là, pouvoir manger la même chose qu'avant.
Alors, dans votre démarche, on sent aussi par la vidéo qu'on a regardée avant de commencer notre échange qu'il y a une forte implication, je dirais, environnementale, sociétale. Hein, vous mettez en avant le faible indice carbone de ce que vous utilisez.
La façon dont on a constitué cette marque-là, ce n'était pas de rentrer uniquement par le prisme de l'éthique animale ou de l'écologie ou de l'impact sur la biosphère, bien que maintenant tout le monde soit au courant qu'en fait l'assiette, je le répète, hein, c'est pratiquement la moitié de ce que peut faire un citoyen à titre individuel. C'est 40% des gestes éco-citoyens. Donc, ce n'est pas une solution techno à l'instant T qu'on n'aurait pas. C'est d'abord les comportements de chacun. Donc, moi, j'évoluais dans le levier qui était le levier impact le plus fort. Le levier de la gastronomie, le levier de la façon de se restaurer. Donc, on a pris nos responsabilités là-dessus. Mais on s'est dit, tant qu'à faire, puisqu'on repartait d'une feuille blanche, pourquoi pas imaginer ce que pourrait être le commerce de retail du 21e siècle, donc avec toutes les problématiques qu'on a listées d'abord. Donc on a listé problématiques du plastique, donc on a retiré le plastique, il n'y a pas de meubles libre-service, vous savez, où vous servez avec plein d'emballages plastiques, etc. Les protéines animales, on a fait un audit avec des cabinets de conseil pour montrer qu'en fait, à business égal, toute chose égale par ailleurs, on était plus de 30% plus efficace qu'une boulangerie classique en termes de décarbonation. Bien sûr, il y a le sujet de l'éthique animale que personne ne veut regarder, mais qui est factuel. L'efficience sur la façon de se restaurer. Et tout ça, on l'explique dans notre démarche qui est très holistique finalement, qui n'est pas que centrée sur l'éthique animale. Et qui est d'imaginer un business qui rentre plus dans les sujets de limites planétaires et de sujets de pollution, etc. Donc à la croisée de plein de sujets.
On sent que c'est un milieu qui a évolué. Je parle de la consommation et de la transformation du végétal. On trouve aujourd'hui plus de produits de substitution et surtout peut-être de meilleure qualité, parce que je pense que c'est important qu'on se pose cette question-là aussi. Dans votre activité, les premiers produits n'étaient pas les meilleurs pour la santé.
Ouais. En fait, ce mode de consommation, il hérite de produits qui étaient ultra transformés au départ et qui ont été très vite associés à cette façon de se restaurer, mais c'est un petit peu délicat de seulement décrire cette façon de se restaurer sous prétexte qu'il y a quelques produits qui ne fonctionnent pas très bien d'un point de vue composition. Puisqu'en fait, dans l'agro business de façon générique, qu'on soit végétarien, vegan ou omnivore, des deux côtés, il y a des produits qui sont bons pour la santé et pas bons pour la santé. Donc c'est un non-débat en vérité. Et donc on peut très bien, je veux dire, manger, être végétalien ou vegan et manger des chips et boire du coca. Donc c'est un faux problème, mais c'est aussi tout cet univers là qui savonne la planche à ce genre d'initiative, parce qu'en fait il y a énorme intérêt financier derrière tout ça, et forcément il y a des lobbies qui savonnent la planche aussi sur balancer des fausses vérités ou noyer le consommateur sous la complexité, qui n'arrive plus très bien à comprendre ce qu'est un produit bio, local, végétarien, vegan, etc. etc. Donc, perdre le consommateur, c'est aussi une façon qui ne change pas, qui ne twiste pas dans son modèle de restauration.
Il y a vraiment un lobby qui...
En fait, il n'y a pas qu'un lobby, il y a des lobbies.
Il y a des lobbies.
Ouais, il y a des lobbies ultra puissants qui n'ont pas un intérêt à ce que les gens végétalisent leur alimentation, bien sûr, parce que c'est des marchés qui sont juste gigantissimes. Le business numéro un du monde, ce n'est pas les ordinateurs, le gasoil ou les voitures. C'est la viande. C'est un business monumental et qui est dingue. Donc, en fait, rien que dans certains pays, je pense que j'aurais du mal à tenir ce genre de discours. En fait. Je pense que dans des pays comme le Brésil, etc., pour ceux qui se lèvent et qui portent ce genre de paroles, c'est ultra dangereux pour leur propre vie.
C'est un sujet qu'on a évoqué mais pas approfondi tout à l'heure quand vous parliez de votre difficulté, la plus grande difficulté donc, dans la transformation de produits connus, c'était la gamme salée, hein, le thon, le fameux jambon beurre. Alors, que proposez-vous aujourd'hui comme offre, et est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour remplacer le jambon, le thon, le saumon,
fin... Alors, je le disais tout à l'heure, il y a quelques années, quand on a travaillé sur cette offre-là qui était très cuisinée finalement, très créative et cuisinée, petit à petit, des startups sont arrivées, nous ont proposé des choses qui simplifient notre démarche. ou qui nous apportent des solutions pour végétaliser finalement. En fait, c'est comme si on garnissait de plus en plus notre économa et qu'on avait de plus en plus d'options pour pouvoir créer des recettes gourmandes. Donc il se trouve qu'il y a des startups comme La Vie ou les nouveaux affineurs, ou nous avec Yumgo, la startup sur les œufs dont je parlais tout à l'heure, une autre entreprise qui travaille autour des produits de la mer, qui permettent, qui crantent d'un point de vue gustatif et qui apportent des solutions aux retailers pour pouvoir créer des recettes de plus en plus proches, encore une fois, de l'existant et de ne pas perdre le consommateur qui est cette espèce de référent, cet héritage qui lui permet de faciliter cette transition. En fait.
Et pour donner aussi une diversité de produits à un consommateur pour ne pas le réduire
exactement.
À manger de la courgette ou de l'aubergine.
Exactement, exactement. Ouais. C'est ça.
Quels sont vos projets de développement aujourd'hui ? Donc, il y a 5 l'année de Monkeys à Paris.
Donc, ouais, il y a un 6e qui ouvre bientôt à Paris. Donc, il y aura 6 établissements parisiens. Alors, on a coché la case parisienne, qui n'est pas la plus facile, hein, parce que l'héritage français, ce n'est pas un héritage qui est tourné autour du végétarisme. Donc, faire le pari déjà d'ouvrir une boulangerie-pâtisserie végane dans Paris, c'était déjà un défi en soi. Mais puisque ce n'est pas le pays le plus sensible à cette façon de se restaurer. On n'est pas dans les pays anglo-saxons, scandinaves ou germanophiles qui sont beaucoup plus sensibles à ces sujets-là et qui ont 10-15 ans d'avance avec des pourcentages de la population qui sont autour de 15-20% de végétariens ou de véganes. Donc on a coché la case parisienne. On va tenter la case province pour montrer que ce n'est pas circonscrit à une offre pour les bobos parisiens qui sont un peu plus en capacité financière de pouvoir aller sur cette typologie d'offres, quoi que ce soit, pas beaucoup plus cher. Donc, aller en province pour valider le projet. Et bien sûr, sur l'international, on a beaucoup moins de doutes parce qu'il y a des pays, comme je le disais, qui sont beaucoup plus matures. Donc, si on a coché la case parisienne et la case province, on n'a pas trop de doutes sur l'international. Alors après, on part en arborescence sur un marché qui s'adresse au monde.
Vous avez fait des études de marché déjà, je dirais, à Lille, Bordeaux ou Toulouse, pour savoir si je pense aux grandes villes dans lesquelles vous pouvez vous installer ou vous y allez
Non, pas des études de marché à proprement parler, mais plus des rencontres avec des gens qui viennent à nous et qui disent dans ma ville, je suis convaincu que ça manque. Ouais. Nous, on le sait, puisqu'on voit aussi avec notre communauté qui nous suit via Insta ou tout ça, qu'il y a d'énormes demandes et d'appétence en province et qui sont toujours un petit peu tristounes que les initiatives naissent dans la capitale et pas ailleurs. Donc, on va juste valider ça concrètement.
Développement en franchise ?
En franchise.
Okay.
Ouais, pour aller plus vite.
Et les prochaines villes, les premières villes
Donc, Bordeaux qui ouvre 2024 et Rennes. Aix-en-Provence est dans les tuyaux et on regarde des profils à Strasbourg et Montpellier.
Un mot, si vous parliez de prix, est-ce que les marges sont plus faibles dans le vegan et est-ce que les produits de base coûtent plus cher ?
Alors, il y a des niches où ça va coûter un petit peu plus cher parce qu'on n'a pas encore massifié. Donc toutes les startups qui naissent sur des initiatives n'ont pas encore les volumes qui leur permettent d'écraser les prix. Mais c'est peu significatif comparé aux économies qui sont faites sur le reste. C'est-à-dire, pour le dire très simplement, acheter un kilo de beurre, c'est beaucoup moins cher qu'acheter un kilo de margarine, c'est beaucoup moins cher qu'un kilo de beurre. Les légumes, c'est beaucoup moins cher que les produits carnés. Et donc, il y a plein de foyers qui sont des gros volumes dans la boulangerie et pâtisserie qui sont beaucoup moins chers que les produits d'origine animale. Et l'intuition que j'ai et qui devrait se traduire dans les années à venir, c'est que ce gouffre va s'élargir, va s'agrandir au fur et à mesure qu'il va y avoir des contraintes qui vont s'appliquer sur les protéines animales.
Oui, si on veut se projeter, vous qui êtes quand même un expert du domaine, l'avenir du végétal...
En fait, par défaut, on y viendra. Tout simplement parce que c'est la manière la plus efficiente de nourrir les gens. C'est-à-dire que la protéine animale, elle prend cet essor post-Deuxième Guerre mondiale quand on veut que tout le monde puisse manger de la viande régulièrement. Avant, c'était un produit d'élite où on en mangeait de temps en temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut 5 protéines végétales pour produire une protéine animale. En gros, il faut 5 kilos de végétaux pour faire 1 kilo de produits d'animaux. Donc en fait, la planète, elle ne peut pas, tout simplement techniquement, elle ne peut pas produire autant de ressources, elle n'a pas à disposition autant de ressources pour pouvoir produire autant de protéines animales. Et il y a des extrapolations qui sont vachement intéressantes, des calculs qui ont été faits, des méta-analyses, pardon, qui montrent qu'en gros, si l'humanité demain twistait vers un régime végétalien du jour au lendemain, qui n'arrivera bien sûr pas, mais soyons rêveurs, eh bien, on tiendrait les 1,5 degrés. C'est pour montrer l'impact de l'élevage en fait, dans le monde, qui, en fait, à chaque fois qu'il y a des méta-analyses qui sont faites, sont beaucoup plus importantes que ce que ça avait été fait avant. On est de l'ordre de 30, 35, voire 40%. Donc l'élevage, c'est mortifère, délétère pour les écosystèmes, la planète, parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de ressources.
mais vous nous dites quand même qu'on y arrivera par obligation, c'est-à-dire que
par contrainte.
Mais c'est quand même dommage qu'on ne prenne pas aujourd'hui la mesure de cet impact-là.
Alors, c'est de plus en plus dit dans les médias mainstream, puisque regardez, on en parle aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Je pense qu'il y a 10 ans, on n'en aurait pas parlé. Même si on en avait parlé, personne ne l'aurait écouté. Donc, en fait, c'est un sujet qui commence à être à minima débattu. Mais bien sûr, il y a tout un écosystème à renverser. Et ça, c'est pas évident. Bien sûr, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, la contrainte énergétique ou la contrainte par le prix vont faire twister, vont faire changer les habitudes petit à petit. En gros, la protéine animale va reprendre ce qu'elle a toujours été. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de faire passer une humanité d'un régime omnivore à un régime vegan. Le but, c'est qu'elle réduise drastiquement les protéines d'origine animale et donc le flexitarisme. Mais qu'est-ce que c'est que le flexitarisme ? C'est quelques repas omnivores par semaine et majoritairement végétariens. Donc, on voit plein d'initiatives qui naissent partout avec des États qui prennent leurs responsabilités.
Oui, finalement, qu'on revienne un peu à ce qui se passait auparavant, c'est-à-dire que la viande soit le plaisir et l'exception.
Exactement. En fait, pendant 11 000 ans, c'était 90-10. 90% des protéines d'origine végétale, 10% d'origine animale. Et maintenant, c'est l'inverse. Et en plus, je ne parle même pas de toutes les maladies qui sont associées aussi à une trop grosse consommation de protéines animales.
Rodolphe, avant de vous libérer, on va proposer aux gens qui ont assisté à notre échange de vous poser des questions, s'ils en ont en tout cas. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Rodolphe Lourdemaine ?
Oui, bonjour Rodolphe. Moi, je me demandais, dans votre concept de boulangerie végétale, vous avez choisi sciemment de ne pas s'adresser directement aux véganes. Si vous, au début, en tout cas, vous n'aviez pas eu un petit souci d'identification justement par les véganes qui sont quand même très, très axés sur il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Du coup, boulangerie végétale, est-ce que ça me convient ? Je me demandais.
Oui, la sémantique, elle est super importante. Et en fait, rien que le nom, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites aux États-Unis qui montraient que quand on faisait des audits auprès des consommateurs et qu'on utilisait soit le mot vegan ou le mot végétal, il y avait une aspérité, une façon d'imaginer la chose qui était complètement différente. Ça n'avait rien à voir. Vegan égale quelque chose d'assez moralisateur, clivant et pas fédérateur. Mais végétal, c'est joli, en fait. Donc, en fait, les mots sont très importants. Et encore, je le répète, cette initiative, elle est faite pour fédérer et pour amener à transiter en douceur. Elle n'est pas faite pour répondre à une petite pourcentage de la population, d'ailleurs souvent très moralisateur, et pas toujours parfait dans ses approches, rempli de contradictions à eux seuls, qui se revendiquent comme un petit peu trop vertueux. Donc non, on aime beaucoup emmener tout le monde et pas s'adresser seulement à cette frange de la population ultra militante.
Une autre question, monsieur Jarive.
Oui, bonjour. Une question concernant les graisses, les margarines. On a mal fou à trouver des margarines sans huile de palme. Donc, je ne sais pas comment vous faites pour en trouver. ça m'intéresse.
Alors, l'huile de palme, c'est un sujet ultra complexe, comme tous les sujets. on travaille avec des industriels pour développer une gamme qui va sortir au printemps, qui est une gamme végane, dont je tairai le nom des industriels, mais peu importe, ce qui est important, c'est la façon dont on a approché ce genre de réflexion, où il y avait toujours le sujet de l'huile de palme qui revenait. En fait, en France, c'est très rédhibitoire, c'est mal vu, on n'en veut pas. Dans certains pays, ce n'est pas du tout la même approche. Et quand on calculait l'empreinte carbone de chaque produit qui était commercialisé, on s'apercevait qu'il fallait vraiment avoir une approche très précise des calculs. Ce que je veux dire par là, c'est que le palmier à huile, il produit tellement en quantité, parce que c'est 2-3 récoltes par an, qu'on sait, oui, qu'il y a de la déforestation et que pour les orang-outans, c'est une catastrophe, on a tous ces images-là en tête, mais que quand on avait besoin de cette ressource-là pour pouvoir créer ces recettes-là, eh bien, on devait avoir des fois 2-3 fois plus de ressources de terres arables. Alors finalement, l'impact, il était plus violent. Donc en fait, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est que nourrir les gens de façon plus efficiente, ça veut dire aussi plonger dans tous ces sujets-là et pas faire des raccourcis qui sont souvent très émotionnels. Donc, il faut plonger dans les calculs. Donc, pour le dire simplement, je cultive X en surface pour faire de l'huile de palme, mais peut-être que j'ai besoin de 2X, 3X pour pouvoir faire la même chose si j'utilise un autre corps gras. Et donc, mon impact carbone, il est bien supérieur. Donc, voilà. Donc, c'est très délicat. Donc, il ne faut pas faire des raccourcis. Et quand on travaillait ces sujets-là, ça revenait toujours parce que émotionnellement, les gens n'en veulent absolument pas. Mais ce qui montre bien qu'en fait, collectivement parlant, c'est à chaque fois qu'on bouge une brique, eh ben il y a quelque chose qui bouge de l'autre côté, que ce n'est pas si simple. Voilà. Et donc, pourquoi végétal ? C'est aussi une façon, encore une fois, plus efficiente, plus efficace, qui demande moins de ressources pour partager les ressources.
Merci. Merci infiniment, Rodolphe Landemaine, fondateur de Land & Monkeys, d'être venu échanger avec nous aujourd'hui. Je vous invite à applaudir Rodolphe Landemaine. On marque sur cet espace une courte pause. On se retrouvera à 14h05 pour continuer finalement à parler du végétal et de son implication, et notamment aussi sur l'empreinte carbone. Donc si le sujet vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre tout à l'heure. Il y aura autour de la table Isabelle Young-Lafargue, qui est aujourd'hui la dirigeante de Hank Burger à Paris, Jérôme Raffaelli, qui est le fondateur de la pâtisserie Au Fond à Marseille, et Nathalie Utter-Lardo, qui est nutritionniste basée à Paris.